Madame, monsieur, bonsoir. 15h15.
Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bien sur la causerie, non, sur Radio Canu, la causerie, c'est 22h, je suis fatiguée. Ce soir, on a Clara à la technique.
Bonsoir.
On a Jean-Yves.
Bonsoir.
On a Jonathan.
Bonsoir.
On a Fabien.
Salut.
On a moi.
Oh ben salut, la neige.
Et puis on a Benoît, on a invité ce soir.
Salut.
Et puis on dit bonjour à Lou aussi.
Bonsoir.
Voilà. On salue Emma qui est pas là.
Eh oui, qui est malade, Emma. Tu nous manques.
On te fait des bisous là où tu es.
Peut-être pas là où elle est.
Là où, hein ? Non.
Pardon. On se reprend.
Et donc la causerie, on la retrouve sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Le Gmail pour nous écrire hein, de temps en temps, ça nous fait plaisir.
On aime bien. D'ailleurs, Benoît, il l'a fait pour.
Ouais, d'ailleurs. Sur lacauseriecanu@gmail.com et puis bah vous pouvez toujours venir nous discuter sur Facebook. Oui, nous, non mais j'inverse mes mots moi ce soir, je cherche pas. Non,
mais même le mieux c'est de venir nous parler directement
ouais,
ici
aussi,
le dimanche soir.
Vous pouvez venir le dimanche soir voilà. Avant 22h parce qu'après on ferme la porte des fois. Et puis
après on s'enferme et on fait des trucs bizarres. De la radio par exemple.
Oui, de la radio.
On fait que ça. Il y a des enfants en émission.
On fait que ça. Des fois. Et ce soir, on parle.
On parle, ouais, on parle agriculture ce soir. J'avais envie de vous emmener à la campagne.
Oh.
Et ouais. C'est, mais, bah, en fait, c'était en écho à ton sujet d'il y a 3 semaines maintenant, je crois à peu près, où tu avais un peu rappelé les bases de la FNSEA, tout ça. Et puis, je me suis un petit peu renseigné sur deux, trois aspects. Et surtout, j'ai entendu une émission, je ne vais pas cacher aux auditeurs et aux auditrices, j'ai entendu un très bon débat, ce qui est assez rare, sur France Info. Il faut dire que c'était les vacances, donc il y avait des vrais journalistes, ça change. Et du coup, il y avait un bon débat où ils ont invité autour de la table un représentant de la FNSEA, mais surtout un représentant des agriculteurs bio. Et des agriculteurs en circuit court. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentaient une association des agriculteurs bio en circuit court et AMAP. Je crois que c'est ça le nom de l'asso complète. Et c'était assez drôle parce que du coup, il y avait un débat entre eux qui était assez surréaliste, en fait, où le gars est venu expliquer en quoi la FNSEA, depuis des années, elle tirait l'agriculture, c'est ce que tu avais dénoncé, vers l'industrialisation et le productivisme. Et que du coup, c'est un peu elle qui avait tiré les agriculteurs vers la situation dans laquelle ils se trouvaient aujourd'hui. Et puis le monsieur, il a donné quelques chiffres que j'ai vérifiés, parce que quand même, des fois, les gens, ils disent des trucs à la radio, on se dit, ouais, peut-être c'est pas vrai. D'ailleurs, vérifiez toujours ce qu'on dit dans la causerie, hein,
oui,
par définition.
Parce qu'entre tout ce qu'on a dit, il y a plein de mensonges. Non, c'est pas vrai.
Non, mais voilà. Et donc, le gars était venu en expliquant que lui, il était agriculteur bio, et que pour qu'il puisse vivre correctement, lui faisait des tomates hein, en particulier. A priori, c'était en Ardèche, hein, si ma mémoire est bonne. Il était parce que c'était sur un France Bleu quelque chose qui était mené le débat. Je crois que c'était en Ardèche et il expliquait que lui, son kilo de tomates, en fait, pour vivre correctement, il fallait qu'il le vende à 1,60€. Voilà. Il expliquait que 1,60€, c'était 70 centimes de salaire, 60 centimes de réinvestissement global et général, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, le tracteur, tout ça, enfin, tout ce qui concerne la ferme, quoi.
Enfin,
voilà, tous les frais. Et 30 centimes de transport et d'emballage du produit pour aller jusqu'au consommateur. Et lui, il disait que ça, c'est ce qu'il pratiquait en vente directe. Et en fait, il rappelait que le kilo de tomate, aujourd'hui, il est vendu en moyenne, le kilo de tomate bio, 4,40€ dans les grandes surfaces. Et qu'il y avait comme un léger souci. Voilà. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, ces grandes surfaces qui revendent le kilo de tomate 4,40€, en général, elles l'achètent aux agriculteurs 80 centimes. Donc, c'est-à-dire qu'il, je vous rappelle, il nous expliquait qu'il fallait que lui le vende à 1,60€.
Donc, la moitié de ce qu'il lui fallait pour vivre. Quoi.
Exactement. Donc, et donc, il expliquait que bah, déjà, le premier gros problème qu'ils avaient, bah, c'était avec la grande distribution. Parce que la grande distribution, elle fixe des prix et elle s'oblige à fixer des prix. Elle oblige, pardon, à fixer des prix qui sont inférieurs au prix de ce qui est fait par l'agriculteur. Et il rappelait juste que les prix étaient discutés en particulier dans ce qu'on appelle les fameuses bourses agricoles. On a beaucoup entendu parler de celles de je ne sais plus la ville, mais qui fixent le cours du porc. Et que toutes ces petites bourses agricoles sont généralement présidées par la FNSEA, mmh. tout comme les chambres d'agriculture. Et que donc, du coup, il disait au monsieur de la FNSEA que bah, c'est un peu étrange de venir après gueuler, alors que bah, quelque part, il participait quand même grandement au système qui mettait à mal les agriculteurs. Donc, il reprenait cet exemple de la tomate, parce que comme c'est ce qu'il produisait, et il prenait aussi l'exemple des fruits et légumes, où il expliquait que sur les fruits, en fait, c'est ben le cours n'est pas du tout fixé au volume produit chaque année. Le cours est fixé généralement 9 mois avant que l'on achète les fruits. C'est-à-dire qu'il est fixé avant même que les fruits soient sur l'arbre. C'est ce qu'il expliquait. Donc on fixe un prix, on dit cette année on vous achètera les poires ou les pêches à tel prix. Et bah, que vous en ayez plus ou moins que l'année d'avant, bah tant pis, c'est ce prix-là. Et du coup, il disait, bah, alors les années où vous faites une surproduction, comme on dit entre guillemets, c'est cool, parce que du coup, bah, vous pouvez écouler à un prix, voilà. Mais généralement, c'est rarement des surproductions. Et il dit, bah, quand déjà vous produisez normalement, et bah, vous êtes déjà en dessous de votre prix de revient. Et si pour peu que vous ayez un pépin sur la production, et bah, vous êtes coincé, vous devez ces fruits-là. Et pire, si vous n'avez pas tous les fruits, vous devez des sous à la grande distribution parce que vous leur avez promis un volume. Et oui, donc c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui se retrouvent à devoir s'endetter pour rembourser des contrats qu'on leur a un petit peu imposés. Mmh. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc voilà, ça c'était un exemple qu'il donnait. Il y avait un autre exemple où moi j'étais très surpris d'apprendre ça, où le monsieur de la FNSEA, pour essayer d'un petit peu, dans ce débat, brouiller les pistes, il a commencé à partir sur un truc autre. Il a parlé des loups, parce que c'est quand, quand on ne sait pas quoi parler, on parle des loups. Alors il a dit, oui, mais quand même, aujourd'hui, les paysans, enfin surtout les agriculteurs, ils ont des problèmes, enfin, comment on appelle ça, les gens qui font les pasteurs. Non, c'est pas pasteurs du tout, c'est...
Les gens qui font quoi?
Qui font des brebis.
Si, c'est les pasteurs.
Ouais, je ne sais plus le nom.
En tout cas, il y a un truc pastoral, effectivement.
Voilà, je suis un peu perdu, pardon, mais les bergers, voilà, chercher.
Ah oui,
excusez-moi. Les bergers. Oui, des fois, ça m'arrive.
Mais on était tous d'accord avec toi.
Voilà.
C'est
à cause du sujet d'après de Jean-Yves, tout ça, pasteur. Enfin bref, vous verrez. Et du coup...
Belle introduction.
Du coup, il s'est mis à parler des loups. On ne sait pas trop pourquoi. Il expliquait quand même, ils perdent jusqu'à 8000 bêtes par an, machin, c'est inadmissible et tout. Et là, en fait, il y avait une jeune fille autour de la table, et j'ai vérifié ses chiffres, elle avait raison. Qui, a rappelé, elle faisait partie des jeunes agriculteurs de la Confédération Paysanne et pas des jeunes agriculteurs de la FNSEA. Hein. Et elle dit, oui, mais attendez. Elle dit, à un moment donné, chaque année, on met à l'écarissage entre 300 000 et 500 000 brebis. Voilà. Et le loup, il en tuerait 8 000. Alors, l'écarissage, c'est quoi? L'écarissage, c'est un endroit où vous mettez ce que vous ne voulez pas utiliser. Et en général, ça sert soit à faire des farines animales, c'est le truc vachement cool, quoi, une époque, quoi, ça traite bien les vaches, elles ont kiffé. Et soit ça sert à faire rien, c'est-à-dire qu'on les brûle. Vous voyez, voilà. Donc, elle disait, le loup, c'est peanuts, quoi. Même si c'était vraiment les loups qui tuaient 8000 brebis. Et encore, comme elle dit, faut encore le prouver, parce qu'il y a que 300 loups en France, hein, donc ils auraient vraiment très faim.
Ils ont un gros appétit.
Voilà.
Et puis, ils aiment beaucoup les brebis.
Mais elle dit, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a quand même chaque année des bêtes qu'on envoie mourir pour rien. C'est-à-dire, voilà. Et ce qui l'a choqué énormément, elle, parce qu'elle se revendiquait comme paysanne, et elle dit, la première chose que les paysans apprennent, c'est à ne pas gâcher. C'est-à-dire, ce que vous faites pousser, eh ben, c'est pour le manger. Si c'est des bêtes que vous élevez, c'est pour aller au bout de la bête, comme on dit. C'est-à-dire, même si vous la mangez à la fin, ou vous faites quelque chose avec, voilà. Donc, c'était assez intéressant. Moi, je me suis dit, c'est quand même des chiffres un peu étonnants. Puis, on n'en entend pas trop parler. Là, on va parler ce soir. Et puis, du coup, bah, de fil en aiguille, je suis allé chercher quand même, toi, tu regardes pas ma feuille, sinon tu auras la réponse. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de terres utiles qui sont cultivées en bio en France? Allez, attention, mesdames et messieurs, gagnez un panier garni.
10%.
Hein,
10%, je dirais. Moins de 10%, ouais.
Une dizaine de pourcents.
Eh bien, c'est 4,14%. Ouais. Ouais. Et c'est-à-dire que ça nous met quand même devant l'Allemagne. Hein, donc, non, mais en fait, je vous rappelle que l'objectif qui avait été fixé par Corinne Lepage, grande ministre de l'Environnement devant l'Éternel, excusez-moi pour la blague, non, c'est parce qu'elle était au JMJ, ça m'a fait rire. Et donc, du coup, du coup, elle avait fixé un objectif de 17% en 2013. Nous sommes à 4,14% en 2015.
Ouais, mais c'est quoi ça, c'est un écart 13
de 9% quand même.
Ouais, bon, ok.
C'est peanuts, quoi.
Et alors, c'est très drôle parce que les agriculteurs, je suis un petit peu fouillé, les agriculteurs et qui se réclament, d'ailleurs, eux, paysans, généralement, dans le bio, ils expliquent qu'en fait, si on a autant de mal à avoir des terres pour pouvoir faire du bio, c'est avant tout parce que les terres, elles sont cooptées ou elles sont rachetées par des grands exploitants qui, généralement, sont membres de la FNSEA et sont aidés par la Chambre de l'Agriculture où la FNSEA est à la tête. Et enfin bref, voilà. Et c'est une espèce de système un peu mafieux qui s'est un peu installé. Et donc, ils expliquent que c'est pour ça qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'installer en bio. Parce que la jeune fille qui était sur France Info, elle voulait s'installer en bio et elle était allée faire un stage de 15 jours. Stage payé par la FNSEA, mais bon, vouloir ce soir. Et en fait, elle disait que pendant 15 jours, pendant exactement sur les 15 jours, donc 10 jours de travail, on lui avait fait pendant 8 jours des cours sur comment lire le cours de la bourse. C'est-à-dire à combien est le blé, à combien la patate, oh à combien machin. Et qu'au final, elle était montée sur un tracteur que le dernier jour pour prendre une photo. J'avais trouvé ça magnifique.
Ah, voilà. Enfin, je trouve que la différence, elle est là entre paysan et exploitant agricole.
C'est ça. Alors, elle espérait, elle disait, je pensais qu'on allait me mettre avec les bêtes ou qu'on allait m'emmener dans les champs. Non, en fait, on lui a appris gentiment à lire le cours du blé et surtout à savoir comment. Et elle avait dit, elle le disait, il y avait un cours sur comment négocier avec ceux qui nous fournissent les pesticides. Oui, c'est un truc assez drôle. Donc, voilà.
En fait, c'est des cours de management, quoi.
C'est ça. Et on est loin, en fait, de la paysannerie, quoi.
Bah, voilà. Clairement.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, il y a des chiffres quand même qui existent, c'est qu'aujourd'hui, 10% du lait acheté en France est bio. Vous voyez. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui est produit en bio est consommé en bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, on ne jette pas du lait, on détruit pas de lait. 90% du lait, donc, est non bio en France, hein, qui est vendu. Est-ce que vous savez combien de pourcentages de lait produits sont détruits chaque année en France?
Beaucoup.
C'est plus de 10%.
Benoît, il est bon à ce jeu-là. Ouais. Non, une petite idée, non?
30%.
Un peu moins, c'est 33%.
Un tiers
de la production laitière en France est détruite. Et quand je dis détruite, c'est qu'elle n'est même pas transformée en lait en poudre. Elle est détruite. C'est-à-dire qu'on la produit et on la jette.
On la jette.
Alors, elle est détruite de trois façons. Il y a tout ce qui est produit avec les dates limites d'utilisation, enfin, qu'on peut manger très très courtes et qui sont en fait pas du tout justifiées, mais qu'on met très courtes comme ça dans les rayons, ça donne l'impression. Ça, c'est jeté. Il y a aussi le fait qu'il y a carrément du lait qui est détruit directement. C'est-à-dire qu'on le balance dans les champs parce qu'on sait pas quoi en foutre. Donc voilà,
bah et oui, ça parce c'est qu'on est tenu par des contrats de temps de...
Et ben oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a des contrats d'exclusivité notamment d'une grande société qui s'appelle Lactalis.
Oh.
Et cette société, elle a l'indécence, on va dire ça comme ça, de fixer en fait un taux de lait qu'elle désire. Et puis quand il y en a plus, eh ben les gens n'ont pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sont en exclusivité avec Lactalis.
Ils n'ont même pas le droit de le donner.
Ni le donner, ni le vendre, ni même le donner d'ailleurs à des associations qui pourraient le donner à des gens qui ont la dalle. Vous voyez, ce serait pas mal.
Ah bah non.
Non, ils n'ont rien le droit
c'est
de faire.
C'est pas profitable.
Donc du coup, bah, on se retrouve à détruire 33% du lait. Et c'est d'ailleurs l'exemple que donnait, toujours dans ce truc sur France Info, le monsieur qui expliquait que bah, pour lui, il y avait quand même un léger problème qu'on soit avec des gens qui ont faim en France, parce qu'il y a quand même des gens qui vont au Resto du Cœur, au Secours Populaire, des choses comme ça, et qu'on détruise de la nourriture. Mais ça s'arrête pas là. ce serait pas marrant.
Fais-nous rêver.
Ce serait pas marrant. Parce qu'on peut arriver aux fruits et légumes quand même.
Ah, bah.
Voilà. Alors vous savez qu'en France, on est le deuxième producteur de fruits et légumes d'Europe. Le premier étant l'Espagne. Est-ce que vous savez... Combien on détruit de pourcentage de fruits et légumes qui sont produits en France chaque année?
Plus de 10%. Je l'ai dit avant.
Faudrait créer un jingle comme ça.
Voilà. Non, c'est un petit chiffre comme ça au hasard.
Allez, 27%.
Ah, t'es pas loin. C'est deux fois plus, 50%.
J'étais optimiste encore.
Oui, parce qu'entre les fruits qui ne sont pas calibrés, qui ne sont pas jolis, qui ne sont pas selon les normes que l'on attend, entre les fruits que l'on produit et puis qu'en fait on n'arrive pas à vendre parce que finalement les transformateurs sont allés les acheter ailleurs et moins cher. Andros, Sandros, ça c'est bon le fruit, vous voyez hein, le truc, voilà. Et que finalement ils vous laissent avec votre cargaison de fruits que vous n'avez pas le droit de revendre car vous êtes en contrat d'exclusivité avec la société dont je viens de faire le jingle. Et ben vous vous retrouvez à avoir des fruits sur les bras et puis les fruits, ça périme. Et vous ne pouvez rien en faire. Et ça périme vite. Donc du coup, c'est détruit. Et c'est à peu près 50% des fruits produits en France.
C'est quand même énorme parce que si on reprend un peu le truc, c'est-à-dire 50% des fruits et légumes sont jetés.
Ouais.
Il y a 30%.
Un tiers du lait.
Un tiers du lait qui est jeté.
Ouais.
Il y a 500.
Et sérieux, les gars, moi j'ai du mal à faire mes courses tous les mois, quoi.
Ben ouais. Donc on imagine bien le truc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ces chiffres, pourquoi je vous dis ça, c'est que d'abord, la première chose, c'est qu'on n'est pas en sous-production. Donc la difficulté qu'ont aujourd'hui les agriculteurs et les paysans, c'est pas un problème de production. C'est pas le fait qu'ils produiraient pas assez. C'est plutôt un problème de distribution. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la distribution, elle est liée à une politique agricole qu'on connaît bien, qui s'appelle la PAC, politique agricole commune, ça vous dit quelque chose. Chaque année, on vous fait un petit truc sur la PAC, vous savez, voilà. Bon, le premier qui me sort, c'est à peu près l'équinoxe, ça marchera pas. Mais, mais voilà. Et chaque année, on nous parle de la PAC, mais personne ne sait ce qu'est la PAC hein, en général. Et ben, la PAC, c'est 9,1 milliards d'aides qui sont versées chaque année à la France, par l'Europe, et donc aux agriculteurs français. Et là, les gens devraient se dire, ouais, génial, dis donc, alors le petit gars qui veut s'installer en agriculture, il peut facilement être aidé, et puis il peut avoir une aide pour avoir un tracteur et tout, parce que bon, comme disait le gars sur France Info, le but, c'est pas non plus de revenir aux chevaux, hein, donc voilà, même si, voilà. Eh ben, pas du tout, parce que la PAC, il y a des conditions pour avoir le droit de toucher une aide. Et là, ça devient vraiment risible. En fait, la PAC, elle n'est versée qu'à 60% des exploitants agricoles. Attention, c'est écrit exploitant agricole, hein, pas paysan. Hein. Et
ça, oui, parce qu'elle est versée qu'à des exploitants agricoles.
Oui, c'est ça. Et elle n'est pas versée à des paysans. Mmh. C'est-à-dire que déjà, si vous avez une ferme et que vous déclarez paysan, vous n'êtes pas déjà dans la PAC, parce qu'il faut déclarer exploitant agricole. Pas pareil. Et donc, en fait, c'est pas compliqué. C'est que pour toucher la PAC, il faut avoir au moins 30 hectares de monoculture.
Ah ouais.
Voilà. C'est pas petit, hein,
30 hectares. Tu fais des haricots, ça fait beaucoup, quand
même. Voilà. Ou en gros, 400 bêtes. Parce qu'il y a déjà une toute petite fermette, hein, comme on peut s'en rendre compte.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
c'est
400 têtes de bétail. Alors, ils sont gentils parce que dans la PAC, ils disent vous pouvez diversifier. Vous pouvez avoir des vaches d'un côté, des cochons en plus, vous voyez, un truc, ou un peu de volaille et des vaches, quoi.
On peut additionner les animaux.
On peut additionner les animaux.
Mais pas les cultures.
Mais c'est pas ça, les cultures.
Ok.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, cette PAC, qui représente quand même 100 euros par an par Européen qui paye des impôts. Vous voyez, c'est quand même pas non plus un petit... Il faut se rendre compte quand même que la PAC, au niveau de l'Europe, c'est le deuxième budget, c'est le premier budget de l'Europe et ça représente 43% du budget européen. Donc c'est pas rien.
C'est presque un monopole, ça.
C'est clair, mais c'est surtout que ça sert avant tout à orienter l'agriculture vers l'agriculture productiviste. Et ça sert finalement à mettre les paysans dans la merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous installer, parce que pour pouvoir toucher des aides, il faudrait que vous arriviez à vous installer en achetant des dizaines d'hectares. Ça veut dire que c'est extrêmement cher. Ça aide d'un coup
arriver.
Ou même de les louer. Mais c'est impensable. On ne peut pas commencer comme ça quand on est deux à dire tiens, je vais prendre une ferme. Je vais
Allez, on prend 400 têtes.
Hein. Voilà. C'est pas possible. Donc en fait, ça tue d'office le fait de pouvoir s'installer à la campagne. Et c'est ce que dénonçait d'ailleurs la jeune fille. Elle disait mais moi, je veux m'installer en bio, je ne trouve pas d'endroit pour m'installer. Alors déjà parce qu'il y avait le problème de la préemption des terres. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, elle dit mais vous vous rendez compte, si je veux pouvoir être aidée pour m'installer, il faudrait que j'ouvre une exploitation. Immense tout de suite, moi toute seule, qui débute dans la paysannerie, quoi. Et voilà, c'est un peu surréaliste. Puis la deuxième chose, c'est que, faut pas l'oublier, eh ben en fait, la PAC, c'est pas versé qu'à des gentils agriculteurs qui feraient que de la production. C'est aussi vendu aux intermédiaires. C'est aussi donné aux intermédiaires. Et oui, si vous êtes une entreprise qui fait du poulet, genre doux, par exemple, et que vous voulez toucher plein de sous-sous, vous faites deux activités. D'abord, vous faites l'élevage de poulets, Donc ça, vous avez la PAC. Et ensuite, vous faites la transformation du poulet. Et comme ça, vous pouvez toucher des aides de l'État aussi pour transformer votre poulet. Et donc, d'où eh ben, ils ont touché en 2010 60 millions d'euros d'aides de la PAC. Et j'ai cherché entre-temps. Et ils ont touché 187 millions d'euros en tout ces trois dernières années d'aides de l'État. Vous savez, ce qu'on appelle enlever les charges.
Et ben voilà. Ouais, mais on va se faire l'avocat du diable. C'est une grosse boîte, quoi. Ah,
c'est une énorme boîte, mais c'est surtout une boîte qui vient de licencier 240 personnes et de fermer 3 élevages. Voilà. donc c'est magnifique. C'est-à-dire que. Ah oui, en fait, ils ont fermé surtout parce qu'ils ont ouvert des élevages en Afrique. Hein, je vous rappelle, c'était
oui, ça. Oui, parce que je crois que. Alors, je coupe vite fait, mais ouais. Je crois que c'est d'où déjà qui était inculpé ou je sais
ouais,
pas comment on peut dire ça.
Ils exportaient du poulet, en fait.
Ils exportaient du poulet congelé dans des pays d'Afrique, ce qui faisait que ça tuait l'élevage de poulet ouais, en Afrique parce qu'ils arrivaient à vendre ça moins cher ouais. que le poulet africain. Oui, oui.
Et ça tuait aussi les gens parce qu'ils n'arrivaient pas à maintenir la chaîne du froid, ce qui fait que les poulets arrivaient bourrés de salmonelle, ce qui est génial. Donc voilà. Mais c'est vrai, ils mettaient ça dans des containers qui n'étaient pas réfrigérés, ce qui fait que, voilà, imaginez. Quand ça arrive au
Sénégal.
Non,
mais c'est le temps de décongélation, quoi.
Quoi, 8 jours, c'est bon.
Non, mais c'est, ils ont trouvé le moyen, quelque part, de régler plusieurs problèmes à la fois. Hein.
Voilà.
Où elle est en forme, Jonathan, ce soir.
Second degré.
Ceci était de l'humour. Non, mais voilà, mais c'est pour expliquer quand même que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on nous vend beaucoup aujourd'hui, et notamment, comme tu le disais, Jean-Yves, des gens qui sont à la tête de la FNSEA, et notamment le gars qui est à la tête de Sophie Protéol, je crois que c'est ça le nom de la société.
Oui.
Qui fait 7 milliards de chiffre d'affaires par an. Hein.
Petite
entreprise agricole.
Familiale. Je ne connais pas la crise, quoi.
Et c'est eux qui viennent en fait expliquer que... Et en fait, le réel problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de paysannerie. On n'a plus que des énormes exploitations. Ouais. Et que surtout, on n'a plus d'autonomie pour les gens qui font de la production. C'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait d'ailleurs très très bien un gars qui était dans un film qui s'appelle Herbe, que je vous conseille, on en avait parlé dans la causerie. Le gars, il expliquait qu'en fait, lui, il s'était fait avoir par les revendeurs et il avait acheté un beau hangar, des beaux trucs et tout. Et il s'était endetté à hauteur de 400 000 euros, ce qui n'est quand même pas une petite somme. Et en fait... il lui faudrait 39 ans pour rembourser ses 400 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il est endetté à vie sur plusieurs générations, même quasiment ce qu'il disait la ferme.
Ouais, voilà. Tu commences son exploit à 25, au moins jusqu'à ta retraite, quoi.
Ouais, mais c'est-à-dire que c'est même ses enfants
donc,
même ses enfants se retrouvent à être endettés. Et ce qui est intéressant, c'est ce gars, en fait, et ben, il travaillait matin, on le voyait, il était épuisé, il travaillait 16 heures par jour. Parce qu'il fallait qu'il rembourse et que du coup, il se pliait à tout ce qu'on lui disait. On lui amenait des nouvelles graines, il testait les nouvelles graines. On lui amenait des graines qu'il pouvait pas replanter. Bah, il rachetait l'année suivante des graines. Et en fait, c'était un cercle vicieux parce que du coup, il avait une espèce de tête dans l'eau en permanence. Et à côté de chez lui, à deux pas de chez lui, il y avait un gars qui avait refusé ça et qui lui, en fait, travaillait avec de l'herbe. C'est d'où le nom du film. Et qui lui expliquait qu'en fait, la première chose que doit viser un paysan, c'est l'autonomie. L'autonomie pour lui et l'autonomie pour son exploitation. Parce qu'il dit à un moment donné, si vous n'êtes pas autonome un minimum sur votre exploitation, vous dépendez que des grandes firmes, Monsanto et compagnie, et que du coup, vous n'êtes plus un paysan, vous devenez un entrepreneur. Et que quand vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas dans la même logique que dans celle de la paysannerie. Et que là, vous n'avez plus du tout le même rapport à la terre. Donc ça, c'était très intéressant de voir ça, je voulais le rappeler. Et puis donc, je voulais vous faire quand même, pour finir sur un truc positif, si vous voulez aider vos paysans et paysannes qui sont autour de chez vous, et puis les exploitants agricoles, parce qu'il y en a qui ont du mal à se faire appeler paysans ou paysannes, mais que vous en avez, vous en connaissez, qui sont bien sympas et puis qui galèrent, et privilégiez les circuits courts. Donc ça va vous demander effectivement de ne pas forcément tout acheter dans votre grande surface, je suis d'accord. Mais ça veut dire essayer de voir s'il n'y a pas une AMAP à côté de chez vous, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Essayez de vous renseigner à savoir s'il n'y aurait pas un magasin paysan à côté de chez vous, parce que vous pouvez en trouver aussi. S'il n'y a pas non
avec
plus...
des regroupements paysans.
Ouais. S'il n'y a pas non plus, tout simplement un agriculteur qui vend directement à la ferme à côté de chez vous. Parce que, comme je vous le rappelle, hein, le kilo de tomates pour vivre de l'agriculteur, il est à 1,60€. Il vous le fera à peu près à ce prix-là. Il ne va pas vous le faire à 4,40€, lui. Parce qu'il n'est pas fou. D'abord, parce qu'il n'a pas le droit, surtout. parce qu'il n'est pas fou. Et puis, parce qu'en fait, à un moment donné, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre dignement. C'est pas arnaquer les gens. Et très clairement, c'est ce qu'il disait. Les gens qui ouvrent des magasins paysans, ils ne sont pas là pour vous arnaquer. Parce que s'ils font ça, c'est justement pour pouvoir se détacher de la grande distribution et des contrats d'exclusivité. Parce que les contrats d'exclusivité, ça tue la paysannerie aujourd'hui en France et ça tue des gens. Et quand je dis ça tue, je ne vais pas être très drôle, mais je rappellerai qu'en France, il y a un paysan qui se suicide tous les 3 jours aujourd'hui et que ce n'est pas un chiffre anodin. Vous voyez, c'est quand même le plus grand taux de suicide après l'industrie. Donc, c'est quand même pas rien et que c'est assez énorme de se dire qu'on en est là. Et donc voilà, il faut quand même à un moment donné se réveiller un peu. Et alors je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a des paysans qui ont voulu ouvrir un magasin paysan sur Lyon. Et ils visaient de faire ça dans un quartier qu'on connaît bien à Radio Canu, qui est les pentes de la Croix-Rousse.
Okay.
Vous savez, vers la place Satonnet. Parce qu'il y avait avant, vers la place Satonnet, bah, vous ne connaissez pas, vous, auditeurs, auditrices, mais vous, si vous passez par là, vous auriez vu qu'avant, il y avait une sorte de grande pharmacie. Vous voyez, qui avait fermé, puis ce local était vide depuis très longtemps. Puis quand j'ai cherché, voilà, parce que je fais des petites recherches hein, quand même avant, je me suis rendu compte qu'il y avait un projet là, qui était là, et puis aujourd'hui on a un Franprix qui est là. Franprix, groupe, je ne sais plus quel groupe c'est
casino,
quelque chose comme ça. Voilà. Et je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre, parce qu'il y avait un projet de magasin paysan. Mais en fait, c'est ce qu'il dénonçait en fait, dans plusieurs articles, et ce qu'il dénonçait sur France Info. En fait, en centre-ville et dans les centres-villes, à chaque fois qu'un local se libère et où pourraient venir s'installer des paysans, la grande distribution place des petits magasins. Et des magasins qui ne sont pas forcément rentables, mais qui sont là pour occuper l'espace.
Et pour faire vitrine.
Et pour faire vitrine, mais surtout pour éviter que les magasins paysans puissent naître en centre-ville. Parce que vous imaginez bien, si d'un seul coup les gens se rendaient compte que le kilo de tomate il coûte trois fois moins cher et que finalement on pourrait l'avoir pour trois fois moins cher, eh ben ils se diraient mais pourquoi chez Casino à côté on me le fait à tel prix. Vous voyez la logique du truc. Et je crois que c'est toi Jonathan qui me disais que c'est cours Charlemagne, il y a carrément deux magasins qui sont
Il y a deux casinos à une ou deux rues parallèles près.
Voilà. Donc on se rend bien compte que voilà, c'est vraiment pour faire de l'occupation d'espace, c'est pas pour avoir il y a pas un business réel d'avoir deux casinos à 100 mètres quoi, faut arrêter de déconner. Enfin donc c'est ça et ils expliquaient qu'en fait tous ces espaces là sont monopolisés par la grande distribution qui a vu en fait que les gens venaient de moins en moins dans les hypermarchés et qui s'est dit eh ben du coup faut qu'on réinvestisse les centres-villes et donc ça veut dire y compris tuer le petit commerce.
Mais en fait ce qu'ils ont déjà fait en faisant leur grande surface, c'est-à-dire tuer tous les commerces de proximité. C'est-à-dire qu'en revenant dans les centres-villes, ils terminent le truc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment rendre impossible le fait que
En ouvrant des hyper partout autour de la grande ville, ils ont tué le petit commerce à l'intérieur, et puis maintenant que les gens ont envie de rester, enfin de se réapproprier l'espace aussi, etc., ils réinvestissent dans tous ces lieux-là.
Ils savent s'adapter.
Ah, ils sont... j'ai envie de dire.
Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez aider, allez vers le circuit court au maximum, faites au mieux. Déplacez-vous aussi, parce que des fois, vous savez, dans les grandes villes, il y a des fois des métros ou des tramways ou des bus qui vous emmènent jusqu'à la périphérie de la ville. Et dans cette périphérie de la ville, il y a des magasins paysans, puis il y a même des fois des paysans qui vendent leur bouffe. Et ça vaut le coup d'aller voir. Non, mais je vous dis, je dis pas ça en déconnant, je dis ça, c'est vrai, quoi.
Ouais, puis circuit court, en parlant de circuit court, il y a le marché aussi.
Oui, il y a le marché, bien sûr.
Mais attention à ce que vous achetez, c'est toujours pareil. Acheter chez un paysan.
Pas un revendeur.
Voilà, regardez vos fruits, s'ils sont tous calibrés, ils viennent du marché Gare. Enfin, c'est plus le marché Gare maintenant. Mais...
Après, moi, j'avais juste une petite blague à faire. Enfin, une blague. Je me rends compte en t'écoutant, Fab, que quand même, le secteur de l'agriculture, c'est le meilleur moyen de faire du blé.
Tout voilà. À fait.
Donc, j'y pense depuis un petit moment. Et
bravo! Bah, mais celle-là, on va la garder.
Il y a autre chose qui m'a un petit peu perturbée quand même, c'est que dans tout ça, ce dont on se rend compte, c'est que le meilleur moyen de faire du profit, donc finalement en produisant de la nourriture, c'est de la gaspiller.
C'est ça.
C'est ça.
C'est-à-dire que, bon, on n'a pas vraiment abordé, comme dans la prépa, la question des kilomètres et des kilomètres que font certaines productions pour venir jusqu'à chez nous.
On refera une émission écologie et agriculture.
Ah non, mais c'est des sujets sans fin.
Mais voilà, le principe, en fait, même pour gagner de l'argent, ce qui est totalement... Enfin, pour moi, ça représente un paradoxe. Après, je ne sais pas pour vous, mais pour gagner de l'argent, il faut mettre 50% de la production des fruits, donc c'est en l'air.
Mais c'est
au compost.
C'est juste un truc de fou.
Et encore, ça serait pas mal si c'était du compost, parce que.
Ah non, là, bon, c'est carrément détruit.
Mais bon,
c'est...
là, ils ont des contrats avec Monsanto
de faire brûler que d'attendre que ça se décompose. Attends.
Non, mais c'est vraiment ça. Et alors, il y a quand même des choses amusantes, parce que vous pouvez lire, vous parlez de ce qui était détruit. Pour essayer de dire que c'est bien, il y a des gens qui disent oui, mais on fait du biogaz avec, donc c'est cool. J'ai envie de te dire, j'aimerais préférer qu'il y ait des gars qui ont aidé. et des enfants qui notamment ont la dalle, tu vois, qui mangent plutôt que tu fasses du biogaz avec la production que tu refuses de vendre, quoi. Enfin, pas que tu refuses de vendre, mais que tu as interdit de vendre. Et je rappellerai juste, je voulais juste terminer dessus parce que j'ai oublié de le dire. Vous savez quel est le secteur où les actionnaires ont le plus vu leur part augmenter cette année?
Non, voilà, t'es encore mauvais, là.
La grande distribution. Voilà. J'avais juste envie de finir là-dessus. Bah,
je me dis, Michel-Edouard, il fait une révolution ouais. qui rapporte du pognon. Quoi.
Alors, Michel-Edouard, si tu veux venir à la causerie, ça t'es pas invité.
Non, alors moi, ce que je voulais peut-être quand même aussi rappeler, peut-être vous pourrez me corriger, mais les fruits et les légumes que les paysans, que les maraîchers ont le droit de vendre, sont dictés par un...
Oui, il y a un registre.
Ouais. Un registre. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai déjà pu croiser un maraîcher qui a fait pousser une espèce de... Je crois que c'était une courge.
Ouais.
C'était une courge blanche.
Et pâtisson disait...
Non, c'était non. pas ça. C'était une courge blanche. Et,
j'ai placé mon pâtisson.
Ok. Et... Merde.
Oui, c'est une courge blanche qui faisait pousser.
Oui, et en fait, le truc, c'est que...
Ah, il va rigoler, ça y est,
on va se reprendre.
C'est une courge blanche.
Oui, c'est ça, merci. C'est donc une courge blanche. Et en fait, le gars, il disait, il avait pas le droit de la vendre.
Non.
Si quelqu'un le voyait la filer dans un panier à des gens, il pourrait avoir des emmerdes.
Bah oui.
Alors que, en fait, son légume, il est bon, il est comestible, et il a pas le droit de le vendre. Il y a des trucs quand même autour de tout ça, même tout ce calibrage de tous ces légumes, les vieux légumes, etc. On les voit plus parce que ben, dans ce superbe registre, ben, y en a plein qui sont interdits et qu'il faut avoir la bonne tomate, etc. etc. Et encore, je continue parce que...
Vas-y. Hein,
merde.
Mais après, non. Je te rappellerai qu'il est 22h30.
Ah ouais, c'est vrai. Non, et juste aussi, en fait... Il y a un truc, c'est quand même tous ces politicards, enfin, tu vois, qui, on sait quand même ce qu'ils valent, mais je trouve que c'est toujours intéressant de les revoir aussi sur toutes ces thématiques, parce qu'ils sont toujours en train de pleurer aussi sur le sort des paysans, hein, qui travaillent, le sang de la terre.
Toutes leurs lois vont dans le sens de l'explosion de l'agriculture.
C'est ça. Et l'Europe, en fait, ne se dessine qu'à travers quelque chose qui est quand même assez gerbant, de productiviste, de merde foncièrement. Et donc voilà, enfin je trouve que c'est ouais, faut s'interroger là aussi en fait quand on vous dit venez voter pour tous ces gens qui décident de vos vies. Eh ben quand ils voient ce qu'ils font, moi je suis pas sûr qu'il faille leur donner vos voix. Enfin bon, faites
mais
ce que vous voulez,
vos paysans en local.
Ça par contre,
c'est hyper important.
Mais grave,
vraiment.
Mais grave. Bon, cher ma bouche. Ouais.
Irresponsible. Still, you offered to buy me a gun. What's so hard about sympathy? Love is a lonely room. Love is a lonely room. When out on the edge, there's just two directions. And somebody has to lose. I should know better than to use words like never and hate. Love is a lonely room. Love is a
And this is no way to die. Who in the hell's life is this I'm living in a way? Love is his only room. Love is a lonely room. Love is a lonely room. Love is a lonely room. Well, love is a lonely room. Lonely room. Love is a lonely room. Love is a lonely room. Love is a lonely room.
C'était Ben Harper and the Relentless Seven. Et c'était The World Suicide. Est-ce que tout le monde m'a bien entendu ?
Non.
Non.
Non, alors je recommence. C'était Ben Harper.
Non, recommence pas.
C'était
en fait.
Ben Harper and the Relentless Seven.
Ouais.
Et c'était The World Suicide.
Wow.
Et est-ce que tout le monde a compris ?
Ouais,
on
ouais.
On va pas recommencer. Hein, c'est...
Ouais, ouais. Et en fait, vous êtes toujours à la causerie sur ouais. Radio Cagne.
Oui.
C'est ça.
Et donc du coup Jean-Yves, toi t'avais envie de nous parler d'un site qui permet de enfin retrouver la raison.
Non,
en
je
tout
dirais...
cas je sais pas de s'en défaire peut-être.
Pas de la raison. Ouais, en fait je vais vous parler alors d'un site mais pas que, enfin voilà, ça tourne autour de l'apostasie et du site qui s'appelle apostasiepourtous.fr. Je trouve ça très joli. Alors qu'est-ce que c'est que donc que l'apostasie, quand même pour se rappeler un petit peu. L'apostasie signifie donc en fait le renoncement par un individu adulte et responsable à faire partie d'une organisation religieuse. Ok.
Ok.
Adulte et responsable.
Ouais.
T'as pu te faire apostasier, toi.
Non, ils m'ont tout refusé. Pourquoi ça ? Enfin, pourquoi parler de ça ? Parce qu'on entend souvent parler d'apostasie là-bas, loin, où les gens, en fait, il y a des gens qui sont dans des pays religieux ou
théocratiques même.
Théocratiques ou d'autres qui peuvent se revendiquer. Pas théocratique, mais qui le sent quand même pas mal. Et donc voilà. Et puis on va aussi entendre que des libres penseurs, des apostats, j'aime bien se dire quand même ce mot, se font enfermer. On en a parlé. Il s'appelait
Walid
et ce n'est pas le seul. Attention, ouais. Walid Al-Husseini. On peut aussi se faire fouetter, comme ça a été le cas, j'ai plus son nom, Badawi.
Rafik Badawi.
Ouais, en Arabie Saoudite. On peut aussi se faire, on peut aussi se faire tuer à la machette. C'est assez tendance ces derniers temps au Bangladesh.
Quatre, hein, c'est ça.
On est au quatrième blogueur. Alors, qui sont pas forcément apostats, mais qui sont en tout cas
vus comme tels.
Oui, c'est ça. En tout cas, ils sont perçus comme tels par les religieux. Fanatiques ou pas d'ailleurs, enfin, par les religieux, quoi, merde.
Religieux du coin.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est vrai, quoi. C'est...
Et alors, moi j'ai déjà pu en parler en France avec des gens ici et tout, et ils me disent, ouais, mais on s'en fout en fait, tu vois, de t'apostasier. Enfin, on s'en fout des religions.
Ça change rien à ta vie, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ben en fait, elles et eux, en fait, j'aime bien retourner un peu une question, et je vais aussi la retourner ici à celles et ceux qui sont dans cette table, mais aussi de l'autre côté du poste. C'est si votre père, votre mère, vous avez filé, en étant petit, petite, une carte du FN. Comme ça, hein. On prend un exemple au hasard.
On est au FN, on t'a pris ta carte depuis 5 ans.
Tu vois. Et je me demande si, une fois arrivé à l'âge adulte, est-ce qu'on se poserait la question de s'en défaire ou pas. Je pense, quand on est...
À la causerie, c'est sûr qu'on s'en défrait vite, mais...
Donc, c'est, en fait, c'est
voire
tout...
même... Ouais, non, je vais me taire.
Et en fait, je trouve que c'est tout ça qui est toujours assez intéressant. Dès qu'on parle du religieux, on essaie de le mettre sur un autre plan que le politique. Alors peut-être que c'est moi qui...
C'est pas pareil.
C'est ça, c'est pas pareil. Donc je pense qu'effectivement, si on avait une carte du Front National dès notre naissance, je pense qu'on s'en débarrasserait si on est progressiste. Eh ben, je pense que si on a eu le malheur d'être élevé sous l'égide de Dieu et qu'on est adulte et truc et qu'on se revendique progressiste...
Puis que Dieu, on en a clairement rien à foutre et qu'on n'y croit pas et qu'un...
Eh ben, je pense qu'on a tout intérêt à ne pas vouloir faire figurer son nom dans la compta vaticane.
Ah, surtout qu'on rappelle qu'il se revendique du fait du nombre de baptêmes d'un certain nombre
bien
de
sûr.
Croyants.
Bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que...
c'est de là qu'ils tirent leurs chiffres. Hein.
C'est tout le truc. C'est forcément, ça va leur servir. Enfin, faut arrêter de mentir.
Oui, qu'il y a des registres pour le plaisir.
Oui, c'est ça.
Tous les dimanches, ils comptent le nombre de personnes qui rentrent dans les églises et tous les lundis, ils font les comptes.
C'est ça. C'est ça. Et donc, j'en viens à celles et ceux, effectivement, qui ont eu ce malheur-là de connaître toutes ces choses-là. En tout cas, pour les cathos, hein, parce que pour les autres, c'est pas encore aussi bien organisé. En tout cas, pour s'en défaire.
Mais surtout qu'en fait, ça repose pas sur la même chose.
Ouais.
L'Église catholique, elle, et d'ailleurs comme les protestants, le baptême est l'acte fondateur de votre appartenance à l'Église. Alors que dans les autres religions, c'est pas aussi clair et aussi simple. Donc
pour celles et ceux qui auraient connu ce Dieu, Jésus, Marie, Joseph, toutes ces conneries-là, y a un truc qui s'appelle donc apostasiepourtous.fr. Et en fait, vous pouvez aller dessus et ça va vous guider dans la rédaction d'un courrier à l'archevêché où vous avez été baptisé. Et ça va vous donner, ça va vous proposer en tout cas plusieurs raisons en tout cas de se défaire, d'expliquer son choix de se défaire de la religion.
Parce qu'il faut rappeler que pour être apostasie, il faut avoir au moins une raison théologique valable. Aux yeux de l'église pour sortir de l'église.
Et ben là, il vous en donne plusieurs. Il vous laisse aussi le choix.
C'est super bien foutu le site. Hein.
Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs de vous qui l'ont déjà vu le site. Et alors, je vais donner quelques exemples, mais ça va parler autour de l'égalité homme-femme. Ça va citer des passages de leur livre pour appuyer donc le fait que la religion n'est pas égalitaire.
C'est-à-dire que le fait de pouvoir lapider une femme adultère, c'est bien. C'est pas bien, je veux dire, pardon.
Merde
pas.
Le truc, c'est que si tu ouvres le livre, c'est écrit dedans. Sauf que les gens ne le savent pas forcément.
Oui, c'est ça.
Et ça parle aussi des LGBT. Ça parle aussi du financement de la Manif pour tous, quand même, qui a été grossement financé par le Vatican, hein, même s'il ne le dira jamais. Aussi des affaires de pédophilie. C'est toujours très drôle, le Vatican qui donne des leçons de vie à tout le monde, mais qui est capable de planquer n'importe quel curé pédophile. On la remercie toujours pour ça, hein, quand même, pour sa grande tolérance. La violence qui est intrinsèque aux religions et à leur volonté de s'étendre à travers le monde. Alors là, on a un exemple avec des fous en Syrie, mais enfin, je veux dire...
Il y a eu des exemples pour chaque grande religion.
C'est ça, c'est ça. C'est aussi, sur le port du préservatif, parce que quand même, ces ordures du Vatican continuent de dire que la capote, c'est pas bien.
Bon, ça aggrave le sida. Ouais, comme avait dit Benoît XVI. C'est un truc hallucinant.
C'est considéré comme un meurtre, quand même.
C'est, voilà, et c'est aussi sur l'avortement.
Le nombre de spermatozoïdes qui sort à chaque fois, c'est même un génocide.
C'est un génocide. Et c'est aussi sur l'avortement. Parce que faut quand même continuer, on l'a déjà rappelé aussi ici, hein, en Irlande.
Les femmes ne disposent pas de leur corps.
C'est ça, c'est Dieu qui en dispose.
Il y a un très bon exemple. Hein. Je crois que c'est aux Philippines, il y a une jeune fille de 11 ans qui a été obligée d'accoucher parce qu'on lui a refusé un avortement.
Oui,
après qu'elle ait été violée.
Non, c'est pas aux Philippines, c'est
Amérique
du Sud.
Bah, c'est un pays très catholique, je ne sais plus lequel c'est, excusez-moi. Sauf que j'ai vu la réaction de François I. Qui disait qu'en fait, c'était la volonté de Dieu. Alors, moi, la volonté de Dieu, j'ai envie de lui mettre à travers les dents, mais j'ai trouvé ça juste un peu odieux, parce que d'un seul coup, c'est le genre de phrase à la con.
Mais on peut justifier n'importe quelle horreur.
N'importe quoi,
en fait.
Et quand même, je rappelle que cette petite, alors je ne sais plus le pays, pardon, mais était violée par son beau-père,
son beau-père,
bonne, à 11 ans, et s'est retrouvée mère, quoi. Et alors, il disait que ce n'était pas la seule, en plus, dans le pays. Parce que
non, c'est assez, la troisième ou quatrième à accoucher cette année.
Ouais, je trouve ça juste fou, quoi.
Entre 12 et 14 ans.
Et c'est, voilà, de voir que c'était justifié par les textes.
Bien évidemment.
Bah oui. Mais ils ont réponse à tout, hein.
C'est ça. Même à la mort. Alors, moi, ce que je voulais quand même vous partager vite fait et tout, parce que bon, bah, moi, j'ai eu la chance de pouvoir leur écrire, hein, leur dire salut les copains, tout ça, veuillez m'enlever de votre registre. Et alors, je trouve qu'elle est tellement parlante, cette lettre.
Ah, c'est la réponse que tu vas
nous
dire.
Oui, c'est la réponse donc de l'archevêché. Hein.
C'est lequel, dis-nous d'où il était
l'archevêché de Strasbourg. Monsieur, je regrette de répondre à votre longue lettre par un simple courrier administratif. Toutes les questions que vous posez mériteraient en effet une réponse approfondie, difficile en dehors d'un contact direct.
Il n'avait pas le temps.
Je souhaite que vous puissiez avoir ce contact un jour ou l'autre avec des chrétiens pour discuter de la foi de votre baptême. En attendant, j'obtempère à votre demande de sortie de l'église. En marge de votre acte de baptême conservé à l'archevêché qui a été aussitôt inscrit, votre intention de quitter la communauté chrétienne. Je demande à monsieur le curé de tel et tel bled de faire de même sur l'exemplaire original de l'acte. L'église est une famille dans laquelle on entre et on sort en toute liberté. À la lumière de sa longue histoire, ils n'ont pas rajouté, ils auraient pu mettre sanguinolente, nous comprenons que le trésor de l'évangile a été placé par le Christ dans des vases d'argile. Ainsi, nul ne peut s'enorgueillir de sa force et chacun est invité à reconnaître sa faiblesse. Bien entendu, vous pourrez revenir sur elle et vous serez accueillis avec joie. Avec cette joie de l'évangile dont parle le pape François.
Jésus revient.
Que vous n'avez visiblement pas perçu de la part des chrétiens que vous avez rencontrés.
T'as des cons autour de toi, en fait.
C'est ça. C'est déjà, je trouve, c'est un mélange de plein de choses. De contrition.
Faut que t'arrêtes cette émission, c'est le mal.
C'est ça.
Déjà.
Et alors, je vais terminer quand même parce que il termine par un petit PS. Et on pourrait se dire, tiens, il m'a un petit message, bisous chez toi. Enfin bon.
Le bonjour à ta mère. Pardon.
Le petit PS. Je vous informe que la Cour de cassation, en date du 19 novembre 2014, a confirmé le jugement de la Cour d'appel de Caen. Eh ben, il te laisse sur ce mot-là. Tu dis, bah, mon gars, t'aurais pu m'en dire un petit peu plus quand même, parce que là, tu me laisses un peu sur ma faim. Eh ben, sur la faim, on va. Tiens, tu veux dire ce joli courrier, je comprends.
C'est le genre de courrier, quand tu le vois une fois dans ta vie, tu rigoles.
Oui,
mais il est véridique. Hein.
C'est ça.
Il y a même l'enveloppe qui fait foi. Et la foi, c'est important.
On enlève le foi.
Et donc, pour continuer sur cette idée-là, enfin, sur cet arrêté qui disait, enfin, sur ce jugement qui a été rendu, donc je suis allé voir. Et en fait, cette histoire, elle concerne René Lebouvier, qui est un libre penseur dans la Manche et qui s'est fait radier des registres des baptêmes et qui voulait que plus aucune trace de son appartenance passée ne figure dans un registre de l'Église catholique. L'Église a refusé. Ok. Dans un jugement en de première instance, le tribunal a donné raison à donc ce monsieur René Lebouvier. L'archevêché de Coutances a fait appel et chose plus rare, le parquet s'est joint à cette démarche et la cour d'appel de Caen a infirmé le premier jugement.
Alors, on va, juste pour ceux qui ne comprendraient pas, ça veut dire que l'État, parce que le parquet, c'est le représentant de l'État, l'État s'est joint à l'archevêché pour contester la décision première et faire en sorte de la casser. Dans un état laïque, hein.
C'est ça.
Tout va bien.
A priori, depuis 1905, l'Église et l'État sont séparés en France.
Bah pas là-bas.
Eh bien, la Cour de cassation, donc saisie par ce René Le Bouvier, a rendu donc un arrêt le 19 novembre 2014 qui confirme la décision de la Cour d'appel et qui condamne donc René Le Bouvier, vous entendez bien, à verser 3000 euros à l'association diocésaine de Coutances. Donc, c'est-à-dire pour avoir
demandé. Il a été condamné.
Condamné à verser 3000 balles pour avoir demandé de virer son nom complètement des registres du Vatican, quoi.
Alors que si vous le demandez à Google, officiellement,
vous
Google
avez
est obligé de le faire.
Bah, c'est oui, ça. Donc,
légalement. Non, mais légalement. Bah, légalement. Je ne sais pas qui le fait, mais il est théoriquement obligé de le faire.
Et donc, alors, ce que je vous cite, là, en fait, hein, c'est un article que j'ai tiré de la Fédération nationale de la libre pensée. Qui est fort utile hein, et important. Et par cet arrêt, donc, il continue, hein, par cet arrêt de la Cour de cassation, faut-il conclure qu'il est impossible à quelqu'un d'effacer toute trace de l'appartenance à l'Église catholique qu'on lui a imposé bébé ? Il n'y a jamais eu de consentement de la part de René Le Bouvier pour appartenir au culte catholique et c'est quelque chose qu'on lui a imposé. Cet effacement est de droit dans n'importe quel fichier. Comme vous venez de le dire sur Google ou des autres choses différentes. Donc, selon les règles édictées par la Commission nationale information et liberté, la CNIL, donc, il se demande est-ce qu'il faut donc conclure que c'est valable pour tout le monde, sauf
pour l'Église.
Sauf pour l'Église catholique.
Ah, ils n'ont pas le bouton se désinscrire.
Ouais, c'est...
Je ne veux plus recevoir votre newsletter. Tous les dimanches matin, c'est trop tôt.
Et il continue plus loin parce qu'il s'interroge vraiment. Il existe toujours des registres paroissiaux, les noms des personnes qui ont abjuré la foi catholique. Cela constitue de fait la tenue d'un fichier des apostats. Il est rappelé en France quand même que la tenue de fichier est très encadrée normalement.
On tient aussi un fichier des apostats.
De fait,
vu qu'on n'efface pas les noms,
on écrit, il est apostat ou elle est apostat. Donc la libre pensée possède la copie d'un registre de baptême du diocèse de Laval où il est indiqué en marge, entre guillemets, par lettre datée du 14 février 2013, il fait acte d'apostasie. Faut-il rappeler, faut-il rappeler que les certificats de baptême au culte catholique était exigé, il fut une époque pour pouvoir échapper au train de la mort ou au camp d'extermination. Qui peut prétendre que cette sinistre période est à jamais révolue et que cela ne se reproduira plus jamais ? Ne s'agit-il pas là de la question de nos droits à la liberté, notamment de conscience ? Ne pas pouvoir faire disparaître toute trace de son appartenance passée au culte catholique, c'est la mise en œuvre de la charia catholique qui s'applique aux mécréants et aux apostats. Et donc la Fédération nationale de la libre pensée termine en appelant tous ceux qui ont été baptisés de force par un prêtre de catho à engager dès maintenant.
C'est-à-dire tout le monde en fait.
Pas tout le monde, mais
moi,
une grande
pas
partie.
Été baptisé.
Oui, moi non plus. Enfin, tous les baptisés en tout cas.
Voilà, mais c'est ça. Ils appellent tous les baptisés en fait à dès maintenant à faire la procédure de demande de radiation des registres des baptêmes du culte catholique.
Non, mais déjà je pars du principe qu'on ne devrait pas pouvoir se faire baptiser avant d'être en âge de pouvoir dire si on le veut ou pas.
Mais ah ouais. Ça ferait vachement moins de clients.
Eh ben, ça ferait du tort. Hein, un
ça
petit peu.
Vachement...
Si tu regardes dans toutes les religions, c'est pareil.
Ah, oui.
Quand on circoncie les gamins.
Ah ben on leur demande pas leur envie. On n'attend pas qu'ils parlent en général. Hein,
pour l'excision aussi.
C'est ça.
Voilà.
Mais il y a un très beau dessin d'un dessinateur turc que j'aime beaucoup. Je me rappelle plus du nom du dessinateur. Je suis désolé, mais le dessin est assez magnifique où il y a deux parents qui sont au-dessus d'un berceau et il y en a un qui dit à l'autre. Ah, vite! Maintenant qu'il est innocent et qu'il ne comprend rien, il est temps de lui choisir une religion. C'est justement, exactement ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on oblige un enfant à être. Mais je rappellerai juste quand même, puisque tu parlais du site apostasie, il y a une chose très importante à dire. Envoyez vos lettres en lettres recommandées avec accusé de réception, car en France, c'est la seule voie légale quand ce que vous voulez faire annuler quelque chose dans un fichier. Donc, lettres recommandées avec accusé de réception. Voilà.
Ouais. Et puis voilà, enfin, je voulais juste terminer là-dessus, mais c'était juste pour dire qu'en fait, la lutte anticléricale, c'est pas juste un truc du passé, c'est que c'est un truc qui est toujours constant, parce que quand on fréquente certains milieux, on a l'impression que
plein de gens baignent dans des environnements où ils n'ont jamais connu aucune oppression. Et que, en fait, ce serait se mentir que de croire que ça n'existe pas en France. Et quand même, la France était la fille aînée de l'Église.
Et quand on se revendique anticlérical, etc., c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout de la démarche.
Selon
moi,
oui.
Ça coûte 5,30€ de recommander, tu vois, et qu'à la limite... Enfin, voilà, tu peux pas te positionner contre quelque chose si tu continues à le soutenir. Même si
indirectement, même indirectement. Évidemment.
À partir du moment où t'en as conscience, en tout cas. Après, voilà, c'est intéressant de savoir qu'on peut se faire apostasier.
Ouais.
Ouais. Il faut le faire. Le site, c'est
apostasiepourtous.fr. Vous retrouverez de toute façon tous les liens, sur le blog de la causerie. Voilà. Et maintenant, on part en musique. Allez.
Mon man vi sa nan te tun marang vu ai khom phat phang nang man man dal man vi sa hai jing yon hang yang sap sa man nak man dal sko ti krong paris pe ban dal hai khom tu oi anat ai pi bang chan trung tae aha pu ke mien nok pang nang mien thi sa chom nai khom ni na ke khlien pae ban yom chi srei khmae barang mon ban vi sa nhom te tun barang vue ao khom khat phang nang man man dal ban vi sa hai chim yon hong nang sap sa mon nak man dal sko ti krong paris pe ban dal hai khom tu oi anat oi pi bang chan prung tae aha pu ke mien nok pang nang mien phi sa chom nai khom nei na ke khlien tae ban nhom chi srei khmae
Ouais. Eh ben, vous êtes toujours sur Radio Canu. Vous êtes toujours à la causerie jusque encore un petit peu. Eh ben, là, on vient de s'écouter The Cambodian Space Project avec le titre A Visa No Have Rice. Et franchement, je vous conseille d'aller écouter ce qu'ils font. C'est, ouais. C'est énorme et il y a vraiment plein d'histoires derrière ce groupe. Enfin, moi, je pense que je vais essayer d'en reparler. Mais
The
voilà.
Cambodian Space Project.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Eh ben, on va continuer. Alors, avant que je fasse une brève, bon, Benoît, bonjour.
Bonsoir.
Donc, tu as déjà fait de la radio, ça s'entend.
Un petit peu.
La façon dont tu parles dans le micro. Donc, tu as eu l'envie, et on va, c'est bien pour les auditrices et auditeurs de savoir que tu nous as écrit un mail quand même en disant, voilà, j'aime bien ce que vous faites la meilleure émission du monde, et j'ai super envie de venir.
Non, ça, on ne répond pas.
Non, mais comme vous ne nous le dites pas assez, il faut bien qu'on s'autocongratule un petit peu.
Et j'ai envie de venir voir ce que ça donne. Et te voilà. Et puis, ben, du coup, toi, tu faisais de la radio du côté de Toulon, c'est ça ?
Alors, oui, pour les études, je suis descendu à Toulon.
Ouais.
Il y avait la mer, tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sylvain, qui est programmateur, Sylvain Bess, qui est programmateur de la SMAC à Toulon, salle de musique actuelle amplifiée. Et par des amis, en fait, il m'a proposé d'intégrer une radio qui s'appelle Radioactive. Radio associative fréquencée à Toulon, je crois que c'est 100.4 là-bas, me proposer de rejoindre une émission qui s'appelle « Sous le sable, il y a des pavés ». Donc émission où il y avait différentes chroniques culturelles, on présentait des artistes, on présentait des événements culturels présents là-bas. Et c'est un peu un virus la radio, c'est-à-dire que j'ai fait ça un an, j'ai fait les chroniques, des régies. Et là moi maintenant me voilà néo-lyonnais et je me suis dit tiens le virus je vais le propager. Mais cette fois-ci je vais aller contacter Radio Canu et j'aimais bien le concept de la causerie. Vous verrez c'est sympa, il y a une bonne ambiance. On entend, on se parle religion, on se parle tomate, tout ça.
On peut dans la même émission parler de tomates et religion et même coupler les deux en lançant des tomates sur certains religieux.
Superbe. Et on fait 5 ans d'ailleurs.
Et donc tu t'es dit tiens pourquoi pas venir voir un peu les copains de la causerie, voir ce qu'ils font, et les copines d'ailleurs, pardon, excusez-moi mesdames.
Ouais. Hein. Donc,
bah oui. Ouais. Je m'auto-excuse.
Non, mais ils étaient en majorité, ils n'ont pas oublié quoi.
Merde,
j'introduis une future émission féministe.
Je voudrais pas, j'interviendrai pas, c'est la première fois que je suis là.
Et donc, t'aurais l'envie comme ça de revenir nous voir régulièrement?
Ouais, c'est pas impossible. Ouais.
Ouais, ah, ça c'est bien. Alors peut-être vous réentendrez Benoît, peut-être. Allez savoir, ici ou ailleurs. Peut-être ici, peut-être pas. C'est un teaser.
Ça devient mystique.
C'est intéressant parce que à chaque fois que tu parles de moi, t'as une espèce de voix un peu érotique comme
ça.
C'est-à-dire vers moins le quart, moins 10. Non, mais attends. C'est le côté moins de 16 de la causerie là.
Ah non, mais c'est qu'à là, on arrive à 23h. Il est temps de maintenant de passer au téléphone rose comme chaque dimanche afin de faire rentrer des sous à Radio Canu.
Toi aussi, tu veux te faire apostasier. Tu veux devenir exploitant agricole.
Appel.
Ah non, c'est vrai. Bah, ils ont une croix.
Enfin,
déjà,
en tout cas,
toi aussi, tu as 400 bêtes.
C'était Saint-André aussi.
Enfin, toute une émission sur ce ton-là, ça peut être très drôle. Hein,
en tout cas, c'est super sympa à toi d'être passé. Et puis, on espère qu'on te reverra
ici.
Oui,
on s'excuse un peu parce qu'on avait dit, on va essayer de, vu qu'on avait que deux sujets, de causer un petit peu plus. Et qu'en fait, le temps,
on
se laisse un petit peu des fois manger par le temps. Et parce qu'on aime aussi sûrement ça. Mais on en causera. On causera
de tout ça.
Eh ben, vu que c'est l'heure...
Une petite brève.
Ouais.
Ouais. C'est juste pour rappeler que le 29 août se tient un ACAB Café. Alors, ACAB, pour ceux qui savent, c'est All Cops Are Bastards.
13-12.
Sur la ZAD de Roybon. Roybon, comme disent certains. Ça me fait, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais bon.
Personne ne sait le dire.
C'est ça.
C'est à Bois des Avenières. Et c'est à partir de 20h, il y aura un repas vegan sur place et plein de trucs assez sympatoches. Et puis c'est surtout l'occasion d'aller soutenir la ZAD de Roybon qui se tient contre le Center Park qui doit se monter là-bas. Je vous rappelle que on parlait d'hectares. Là, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares qu'on a envie de mettre sous une jolie petite bulle, alors que c'est une super belle forêt actuellement. Et qu'on a envie d'y mettre 29 degrés toute l'année, et puis accessoirement de mettre de l'eau à 33 degrés toute l'année. En pompant justement sur les réserves d'eau qui vont normalement aux agriculteurs. Tiens, encore un truc qui va pas les aider. Donc voilà. Donc vous voyez, tout est un peu lié.
Non, déconne.
Voilà. Ah bah, donc ouais. Je vous rappelle, c'est le 29 août à partir de 20h, c'est au Bois des Avenières et il y aura un repas vegan. Voilà.
Yes. Et on va se quitter quand même, pas sans rappeler que Radio Canu est toujours, enfin, on fait toujours un appel à dons, c'est depuis mai 2014 et que l'achat du local devrait se faire là, dans les 6 mois maximum, 5 mois maximum.
Ouais.
Et que l'appel a donc, comme dit, il continue. On continue de remercier les gens qui filent du pognon avec des mots qui sont super sympas. Enfin, vraiment,
et quelle que soit la somme,
ce qui nous
touche vraiment, c'est les mots. Moi, franchement, il y a des petits mots, mais qui sont magnifiques, du genre j'adore ce que vous faites, continuez. Du genre franchement, si Radio Canu disparaît, je sais pas ce que je fais et ça fait plaisir.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc, on a un peu l'oxygène des gens. On est un peu indispensable.
Sans pression.
C'est ça. Et donc voilà, vous pouvez envoyer des chèques de soutien, vos dons en chèque, à Radio Canu BP 01 69 201 Lyon CEDEX 01.
Oui.
Et vous pouvez aussi aller sur le site internet de Radio Canu, il y a un onglet soutenir Radio Canu, vous y retrouverez l'historique de Radio Canu, mais aussi comment faire un virement. Voilà, voilà.
Ouais. Et vous pouvez passer aussi le mardi soir entre 19 et 20h, ça rouvre à partir du 25 août, c'est-à-dire mardi. Et on sera très heureux de vous recevoir pour, si vous voulez faire vos dons en liquide ou même simplement venir parler de la radio. C'est toujours un plaisir d'avoir des retours des auditrices et des auditeurs.
Voilà. Ouais. Et je rajouterais, il y avait aussi, enfin, il y a des t-shirts aussi qui ont été faits sérigraphiés pour Radio Canu pour cet appel à don, et que le mardi soir à la prog, oui, c'est aussi le moment, si vous avez envie, et ben c'est de venir chercher un t-shirt. Voilà.
Viens chercher tes t-shirts. Viens.
Voilà, voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit.
Ouais.
On
a tout dit. Sauf par quel titre on se quitte ?
Ah ben, on se quitte par quel titre ?
Alors, on va écouter Sarah McCoy avec Beautiful Strangers. Et alors, Sarah McCoy, pour ceux qui ne la connaissent pas, on dit qu'elle a la voix de miel avec un fouet dans la main. Je vous laisse écouter, vous me direz pourquoi on dit ça après dans l'émission prochaine.
Le jeu est lancé, on se retrouve sur le blog.
Voilà, ouais, tiens, c'est une bonne idée.
Et ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, bon coup de courage pour celles et ceux qui peuvent reprendre le taf ou pas, ou qui d'ailleurs n'ont pas eu de vacances, enfin bref, tout ça. Bon courage à toutes et tous, merci à Benoît pour sa visite.
Merci.
On le reverra.
Lou, tu dis ciao.
Ciao.
Salut Clara, la technique.
Salut.
Salut les gens.
Salut. Bye bye. Salut.
and some blue Valentine's Day. I've seen you blowing on the wind, yeah, like a kite there astray. Somehow you have a slip of your lover's side. We are beautiful strangers. You know I ain't asking now for forever. But just tonight.